Radio Alliance Plus. Parole aux associations.
Bonjour à toutes et à tous, Didier au micro de Radio Alliance Plus. Je vous rappelle que vous êtes dans l'émission Parole aux associations. Et aujourd'hui, je reçois plusieurs personnes qui font partie du réseau Éducation sans frontières. Alors, j'ai Muriel Morin. Bonjour Muriel.
Bonjour.
J'ai Marie-Laure Manéfice.
Bonjour. Oui, c'est ça, Manéfice.
Et Eric Manéfice. Bonjour.
Bonjour.
Alors, nous allons parler aujourd'hui de ce réseau, qui est un réseau en soutien aux mineurs non accompagnés et dont votre action se situe principalement justement dans l'aide et l'accompagnement des recours juridiques. Alors, c'est Muriel qui commence, on parle un peu de l'organisation, comment ce réseau, comment vous êtes organisé pour ce genre d'action.
Donc, Réseau Éducation sans frontières est composé de plusieurs associations qui, de façon diverse et complémentaire, accompagnent les mineurs non accompagnés. Donc, RESF a plusieurs points sur lesquels nous insistons, sont les recours devant les juges des enfants pour les mineurs qui n'ont pas été reconnus mineurs. Donc, nous les aidons à faire ce recours juridique auprès du juge des enfants, de façon à ce que leur minorité soit reconnue. Nous œuvrons aussi pour que ces jeunes soient scolarisés, ce qui n'est pas évident, et divers accompagnements. D'autres associations aident au niveau de l'éducation, de la scolarisation, de l'alphabétisation, notamment l'association Trampoline et l'association La Clé des mots, qui proposent divers cours et alphabétisation
et
pour les jeunes.
Vous êtes en liaison avec eux alors.
Tout à fait.
Alors, ces mineurs, ils arrivent sur le territoire du Gard, parce que j'imagine que vous occupez de la région du Gard, non, du département.
À Nîmes, ils arrivent à Nîmes. Ils arrivent à Nîmes.
Alors, comment ça se passe? Ils viennent vous voir? Vous êtes organisé? Comment on peut vous joindre? Il y a des locaux?
Oui, alors, RESF peut se retrouver dans les locaux de l'APTI. L'APTI, c'est l'Association pour la promotion des travailleurs immigrés. Donc, c'est au 8 boulevard Serge-Chantrière, à Nîmes, pas loin de la gare. Les jeunes connaissent ces locaux parce qu'ils en parlent entre eux. Très souvent, quand l'un d'entre eux est débouté de sa minorité, il sait qu'il peut venir se présenter ici, de façon à ce qu'on étudie son cas et ce qu'on l'aide et l'accompagne pour le recours.
Alors, pour expliquer à nos auditeurs, on est bien d'accord, ce sont donc des mineurs ou supposés mineurs, parce que j'imagine qui n'ont pas de papier ou pas de preuve de leur minorité
Alors, certains ont des photocopies ou des photos dans leur téléphone qu'ils impriment. Mmh. Très peu ont leurs documents originaux avec eux. Donc, nous participons à ça, les aider à faire envoyer leurs documents originaux, les réceptionner ici, de façon à ce qu'ils puissent les fournir aux autorités, aux juges.
En fait, toute votre action, c'est pour prouver leur minorité. Pas forcément leur
pas
identité.
Pour les aider à prouver leur minorité. Oui.
C'est ça.
Voilà.
D'accord. Ouais. Parce qu'à partir de là, prouvant la minorité, ils peuvent rester sur le territoire, c'est ça?
Voilà. Être pris en charge par l'ASE, c'est-à-dire l'aide sociale à l'enfance, et bénéficier, comme tous les enfants qui sont à l'ASE, d'un accompagnement éducatif, aide sociale à l'enfance.
D'accord.
Voilà. Donc d'avoir un accompagnement éducatif. Pour la formation, pour la scolarité, jusqu'à l'obtention d'un titre de séjour à la majorité.
Alors, ces jeunes, ils viennent seuls, j'imagine, puisque
non accompagnés.
Le titre est non accompagné. Donc, ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas de famille, d'amis qui les accompagnent. Ils se retrouvent seuls sur le territoire français.
À l'arrivée, oui, ils sont seuls, oui, tout à fait.
Et ils viennent d'autres pays étrangers, notamment de l'Italie, peut-être, j'imagine, non ça,
alors,
vous ne savez pas leur origine.
À l'origine, si, à l'origine, ils sont souvent d'Afrique de l'Ouest, d'accord. Afrique francophone, il ne faut pas l'oublier, oui. C'est pour ça qu'ils viennent en France.
Oui, parce qu'ils parlent le français.
Voilà.
En fait.
Donc principalement en ce moment Côte d'Ivoire, Guinée, un peu moins du Mali, puis après on a quelques jeunes burkinabés, camerounais.
Alors, généralement, ils ont laissé les parents chez eux ou comment ça se passe? Pourquoi ils sont seuls? Vous ne le savez pas?
Chaque histoire est différente. Oui. Chaque histoire est différente. Certains ont fui la misère et le manque de perspective. Certains ont été entraînés dans cette aventure sans vraiment savoir où ils allaient. Donc, ouais. c'est des histoires de vie toutes...
Il y en a qui ont atterri comme ça, sans savoir...
Sans savoir qui ils étaient, voilà, voilà. Ils étaient en route pour l'Europe, en fait. Certains pensaient rester quelque part en Afrique.
D'accord. Ouais. Ok, c'est... Comme vous dites, c'est leur histoire personnelle et Dieu sait s'il y en a.
Elles sont diverses, oui.
Et bon, en termes de, comment dirais-je, de quantité, si je puis dire, il y a un nombre important qui vient de mineurs non accompagnés, qui arrivent à Nîmes. Et puis d'abord aussi, pourquoi Nîmes et pas d'autres villes? Je ne sais pas, mais c'est le hasard.
Si, si, il arrive partout, dans toutes les préfectures de France, pas plus à Nîmes qu'ailleurs. Il se trouve que les jeunes qui arrivent par l'Italie ou par l'Espagne... Bah, elles sont souvent dans la périphérie de la Méditerranée, hein, que ce soit entre Carcassonne, Perpignan, Montpellier, Nîmes, Marseille, Nice. Voilà.
D'accord.
Après, il n'y en a pas plus à Nîmes qu'ailleurs. De toute façon, quand un jeune est reconnu mineur, il y a une clé de répartition nationale qui fait qu'ils sont ou destinés à rester à Nîmes ou à être transférés dans un autre département, ce qui rend, on va dire, le nombre... de jeunes équitables sur chaque département par rapport à plusieurs facteurs de la population.
Alors, on a parlé du local, on l'a vu tout à l'heure, on rappellera son adresse. J'imagine que pour faire des aides de ce type, il faut le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mmh. Donc, vous avez un financement, comment ça se passe? Parce que juridiquement, vous êtes constitué comment? C'est pas une association. Hein,
non, c'est un réseau, oui.
Un réseau. Alors, le financement, il arrive comment et il arrive où?
Ce sont des dons, uniquement par don. Ouais, voilà.
Bon, d'accord. Des dons de personnes physiques ou d'entreprises?
De particuliers ou autres.
D'accord. Voilà. Ok. Donc, on peut faire un appel à dons?
Par exemple, oui.
Alors, à ce moment-là, comment ça se passe matériellement? Les gens s'adressent où?
Matériellement, il faut... Je vous conseille d'aller sur le...
Alors, on peut citer le mail.
Voilà, le mail d'ARSF où on aura plus de détails.
Eh bien, on va l'indiquer. Donc, si vous voulez faire des noms, vous allez sur le mail resf30gare, tout attaché, @gmail.com, c'est ça?
Voilà, exactement.
Alors maintenant, après les dons, vous avez, j'imagine, des équipes, des bénévoles, il y a des salariés?
Il n'y a pas de salariés.
Donc que des bénévoles?
Que des bénévoles.
Alors là, imagine que là aussi, on peut faire un appel à...
Exactement. Exactement.
Je sais pas où c'est, mais, donc oui, il y a Marie-Laure qui en parle ou vous dites.
Voilà, appel à bénévoles, oui. Après, il y a diverses façons d'aider RESF. Nous, on a une commission donc juridique pour aider sur les recours. Il y a aussi une commission scolarisation.
Comme vous dites, une commission juridique, elle est interne au réseau.
Oui, 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 oui. C'est-à-dire qu'on est une poignée de bénévoles à s'occuper à faire les dossiers auprès des avocats et des juges. Il y a un autre groupe qui se penche sur tout ce qui est scolarisation, pour qu'ils aient l'accès à la scolarisation, ce qui est loin d'être évident dans le département du Gard. Après, ben, on essaie d'organiser des sorties culturelles, loisirs, tout ça. Il y a des accompagnements à faire pour certains qui ont des soins.
D'accord. Voilà. Alors, on en parlera plus particulièrement dans la deuxième partie, après la pause musicale. Je voudrais revenir sur, maintenant, vous trois, savoir pour quelles raisons, puis c'est intéressant pour nos auditeurs, savoir comment et pourquoi cet engagement dans ce réseau qui est quand même un peu particulier et surtout qui est affecté simplement à des mineurs. On est bien d'accord, vous vous occupez pas d'adultes.
Non.
Alors, qui commence? Muriel, Marie-Laure, Eric, allez-y.
Allez, alors, je prends le relais du
coup. Marie-Laure, Marie-Laure, pourquoi cet engagement auprès du réseau Éducation sans frontières?
Alors d'abord, ben, Eric, mon mari et moi, on a rejoint il y a très peu de temps RESF, hein, depuis septembre ou octobre.
Ah, c'est tout nouveau.
Oui, c'est tout nouveau. Et j'ai découvert aussi ce public, ces jeunes MNA, récemment, parce qu'en fait, je suis enseignante. Donc moi, j'enseigne dans le premier degré depuis une vingtaine d'années. Et l'année dernière, j'ai eu la chance de bénéficier d'un congé de formation au sein de l'éducation nationale. Et donc, j'ai fait un master 2 en français langue seconde pour pouvoir ensuite me spécialiser un peu à enseigner le français vers des jeunes qui viennent d'arriver en France et qui ne parlent pas encore le français. Donc, dans le cadre de cette
formation... C'est pour l'enseigner, je veux dire, hors scolarité ou,
Ah non, pas du tout. Au contraire, au sein de l'éducation nationale. En fait, d'accord. Je suis toujours enseignante, mais je me suis spécialisée pour l'accueil des élèves étrangers, en fait.
D'accord. Donc il y a des cours spécifiques pour ce type de...
Il existe, en fait, dans certaines écoles, là où il y a beaucoup de...
Étrangers.
De personnes qui sont nouvellement arrivées. Et beaucoup d'enfants qui ne parlent pas français, il existe des unités pédagogiques qu'on appelle unités pédagogiques pour les élèves nouvellement arrivés, allophones nouvellement arrivés.
Et ça se passe à quel niveau? Ils ont quel âge quand
il y a tous les âges. En fait, pour l'instant, la maternelle n'est pas concernée, mais ça concerne les élèves donc de l'école primaire à partir de 6 ans. Moi, je suis dans le primaire.
Enfin, ils savent lire et écrire dans leur langue quand même.
Ah ben, pas forcément.
Ah bon, pas forcément. Ah bon.
Pas forcément, d'accord. Parce que tout dépend, pareil, du parcours migratoire, si l'enfant a été scolarisé dans son pays ou pas. Et voilà, donc moi, dans le cadre de ce master, du coup, j'ai été une première fois, j'ai découvert ce public des mineurs non accompagnés par le biais d'un exposé que je devais faire. C'est là que je me suis rapprochée de personnes de RESF, qui m'ont un peu expliqué qui étaient ces jeunes, comment ils arrivaient là, etc. Et ensuite, j'ai fait un stage, j'ai eu la chance aussi d'être accueillie dans un dispositif qui existe sur Nîmes pour les mineurs non accompagnés qui sont reconnus et qui ont moins de 16 ans et qui sont du coup scolarisés en
Quand
collège.
Vous dites qu'ils sont reconnus, ça veut dire qu'ils ont été, les recours ont été épuisés, ils ont été reconnus juridiquement.
Ou ils ont été reconnus directement en se présentant au département parce qu'ils étaient très jeunes et qu'on les a pris tout de suite. Il y a toute histoire est différente. Mais ce sont des jeunes donc, qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et scolarisés. Donc eux, ces jeunes-là que j'ai découvert donc, en étant en stage, entre guillemets, dans un dispositif qui a été mis en place à Nîmes pour les moins de 16 ans, et j'ai découvert ces jeunes qui venaient d'Afrique francophone. Alors, c'est un peu différent de ce que je fais moi, parce que ces jeunes parlent déjà français, la plupart. Mais ils ont un français oral, mais ils ne maîtrisent pas forcément l'écrit. Tout dépend de leur niveau de scolarisation antérieure. Et en tout cas, ces jeunes m'ont vraiment impactée. Et je pense qu'ils impactent toute personne qui les rencontre et qui les fréquente. Et c'était aussi le témoignage des professeurs et des personnels qui travaillent avec eux au collège.
Donc c'est à travers ce master et cette volonté d'aider les jeunes que vous êtes rentré dans ce réseau et que, en fait, maintenant, vous appliquez ça pour les éduquer et leur donner plus que des notions de langue française à s'exprimer.
Alors, non, parce qu'en fait, moi, je suis restée donc, au niveau du primaire. Donc là, maintenant, je me suis spécialisée. J'ai un poste pour les enfants non francophones, mais ça ne concerne pas des mineurs non accompagnés, puisque c'est des petits.
D'accord.
Mais par contre, au niveau personnel, du coup, j'ai été impactée par la réalité de ces jeunes et j'ai voulu m'engager au niveau associatif.
D'accord. Cette expérience, ce témoignage est fort intéressant. On reprendra dans la deuxième partie, parce que le temps passe, et après, en deuxième partie, on va voir l'engagement de Muriel et d'Éric. Je vous propose, comme il se fait habituellement dans notre émission, une pause musicale. Et vous savez que la pause musicale, c'est un morceau qui a été choisi par mes partenaires. Donc ça s'appelle, alors en anglais, « You Raise Me Up », et en français « Tu me relèves », de Dan Luyten et de Priscille Lawson. Alors, je ne sais pas qui veut répondre, mais pourquoi avoir choisi ce morceau?
On a choisi ce morceau avec Éric parce que c'est un morceau qui donne un peu d'espoir et on trouve que ces jeunes, ils en ont besoin. Voilà.
Très bien. Eh bien, on l'écoute et on se retrouve après.
Oh, tu me relèves, je trouve la lumière. Tu me relèves et grâce à toi je vis. Tu me relèves, je trouve la lumière. Tu me relèves. sur tes épaules, et tu me relèves, et grâce à toi, je vis. Tu me relèves, et grâce à toi, je vis.
Bon, après cette courte pause musicale, nous reprenons le fil de notre émission. Je vous rappelle que j'ai à côté de moi Muriel, Marie-Laure et Eric, qui font partie du réseau Éducation sans frontières, et l'on va parler de mineurs non accompagnés. Alors, reprenons l'engagement de chacun. Muriel, pourquoi avoir pris cet engagement auprès de ce réseau ?
Ben, dans un premier temps, j'avais entendu que l'aide sociale à l'enfance proposait que des membres d'associations parrainent des jeunes dont ils étaient les tuteurs, donc qui étaient pris en charge, reconnus mineurs. Et je me suis engagée sur le parrainage. Ça s'est fait avec l'association Ados sans frontières.
Donc vous étiez déjà dans une autre association alors ?
Non, je les ai rejoints à ce moment-là pour pouvoir parrainer, en fait.
D'accord.
Et donc, Ados sans frontières avait mis en place, avec l'aide sociale à l'enfance, des accords pour qu'on puisse parrainer les jeunes. Donc, j'ai parrainé un jeune qui aujourd'hui, c'était il y a 5 ans, donc aujourd'hui il est majeur. Mm-hmm. Et en fait, c'est en fréquentant mon filleul que je me suis rendu compte qu'ils étaient très nombreux en galère, en désespoir. Et que je me suis dit, ben, faire pour un, c'est bien. Faire pour plus, c'est bien aussi. Et donc, je me suis penchée vers une action plus collective.
Bien. Et maintenant, c'est Eric qui va nous faire part de son expérience et de son engagement auprès de ce réseau.
Merci à Muriel. Merci à ma femme Marie-Laure. Et j'ai une... comment dire... Je tiens à remercier M. Delors, qui a permis que...
Alors Delors, c'est notre président, le président de Radio Alliance Plus.
Que cette émission a eu lieu. Et pour rejoindre tout ce qui a été dit dans tout ce qui a été dit, j'aimerais citer un proverbe. C'est un proverbe, le proverbe 31, qui dit que « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice. » Et défend le malheureux et l'indigent. Et après, c'est dans Matthieu 25. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi.
Alors c'est un peu un engagement religieux qui vous a mené à cette action auprès des jeunes.
Effectivement. Et pour tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, j'aimerais donner pas forcément un exemple, mais la situation où on se retrouve que un enfant fait un rêve et il raconte à son père ce rêve en disant « Papa, dans ce rêve, j'ai vu une grande salle où il y avait beaucoup de gens allongés par terre. Et ils étaient souffrants physiquement, spirituellement. Ils avaient faim. Et quelques années après, ce gamin, le rêve qu'il avait fait, il se retrouve et on voit que c'est une réalité qui est là, au fait. Et il dit à son père, « Papa, ce rêve que j'ai fait, il est devant moi et c'est une réalité. Et toutes ces personnes que j'ai vues dans ce rêve, je les ai vues devant moi. » Et il a dit, « Qu'est-ce que je peux faire pour les aider ? Qu'est-ce que je peux faire ? Parce que j'ai vu leur souffrance, j'ai vu le mal-être de ces jeunes, de ces mineurs non accompagnés dans mon rêve. Et le rêve s'est transformé en réalité. »
Eh bien, merci pour ce témoignage, Eric. Je vous propose d'écouter de nouveau Marie-Laure, puisqu'on n'a pas eu trop de temps tout à l'heure. vous aviez aussi beaucoup de choses à dire sur votre engagement et notamment sur votre mémoire que vous aviez fait, c'est ça sur,
Oui, alors sur, le voilà. mémoire, il m'a permis en fait de découvrir vraiment et d'approfondir qui sont ces jeunes, d'où ils viennent, etc. Mais tout comme Eric, en fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est de me rendre compte que finalement, mais les jeunes qui étaient au tremplin, là où j'ai fait mon stage, ils avaient la chance d'être pris en charge, mais qu'il y en avait beaucoup qui ne l'étaient pas et qui non seulement n'allaient pas à l'école, alors que l'école, quand même, en France, c'est obligatoire jusqu'à 16 ans. Et moi, je suis bien placée en tant qu'enseignante pour savoir qu'on lutte contre l'absentéisme et contre l'évitement scolaire et qu'on nous demande de toujours aller au plus près des populations qui sont un peu éloignées de l'école pour les ramener à l'école. Et là, je vois des jeunes qui ont envie d'aller à l'école. C'est ce que j'ai le plus remarqué donc, lors de mon stage, des jeunes qui ont une soif d'apprendre, une volonté de progresser et qui sont vraiment respectueux du système éducatif, qui sont... très content d'être à l'école en fait et qui même parfois sont venus dans cet espoir-là parce que dans leur pays parfois c'est pas évident ou dans le cadre de mon mémoire j'ai découvert par exemple que dans certains pays du Sahel il y a des attaques même sur les écoles qui font que beaucoup d'enfants ne peuvent même plus aller à l'école et malgré que ce soit officiellement un peu obligatoire aussi. Donc voilà, donc j'étais marquée par le fait qu'il y a beaucoup de jeunes sur Nîmes qui finalement non seulement n'ont pas la chance d'aller à l'école, et en plus après j'ai découvert que non seulement, également ils ne sont même pas logés. Oui. Donc je me suis Alors dit comment c'est possible en fait que des mineurs qui ont moins de 18 ans, donc c'est des enfants. Moi j'ai un enfant de 15 ans, donc je vois des jeunes qui ont le même âge que mon fils et qui dorment à la rue.
Alors justement, bonne transition, tout à l'heure on a évoqué en première partie que vous les accompagnez pour des recours juridiques, mais quand ils arrivent, qu'est-ce que vous faites? Ils vont où? Puisqu'ils sont seuls, ils n'ont rien, et ils viennent chez vous. Et alors le problème de l'hébergement, vous essayez de le résoudre?
Mais c'est pour ça en fait qu'on a eu envie de venir aujourd'hui pour parler de ce côté-là, parce qu'en fait un jeune qui arrive, qui se présente au département, s'il est reconnu, donc il est mis à l'abri, c'est-à-dire qu'il est logé dans un hôtel pendant quelques jours, pour ensuite avoir une évaluation de sa minorité par un travailleur social qui essaye de voir, de déterminer s'il considère
alors vous,
que c'est un mineur ou pas.
Alors vous, qu'est-ce que vous faites pour ça alors ?
Alors, pour ça, moi je fais rien, mais simplement c'est que ces jeunes, ceux qui sont acceptés de suite, ils sont tout de suite pris en charge, hébergés. S'ils sont refusés et donc qu'ils passent dans le côté où ils ont besoin d'un recours juridique, là, ils ne sont pas hébergés, ils se retrouvent à la rue. Et c'est là que sur Nîmes, il y avait vraiment énormément de jeunes. Le rêve dont a parlé Eric, en fait, c'est un rêve qu'il a fait. Et il l'a fait il y a déjà plusieurs années. Un rêve où il a vu le squat de Nîmes, avant même peut-être qu'il existe.
C'est ça, ils vont dans des squats ou dorment dans la rue.
Donc et donc il y en a qui dorment à la gare, il y en a qui dorment dehors, il y en a qui s'étaient organisés en squat et il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de jeunes. Il y avait plus d'une centaine de jeunes quand même, de moins de 18 ans, qui dormaient dans ces conditions, dans le froid. Il ne faut pas oublier qu'ils viennent de pays d'Afrique pour la plupart, donc ils ne connaissent pas le froid non plus. Et puis il faut lutter pour se nourrir, il faut lutter pour comprendre le système, etc. Donc nous, ce qu'on a eu envie, c'était pourquoi on s'est rapproché des RESF aussi, c'était parce qu'on avait envie de rejoindre les hébergeurs solidaires.
D'accord.
Voilà.
Et donc sur Nîmes, il y a
Et sur Nîmes, mais c'est un peu Muriel, la spécialiste de l'hébergement solidaire, c'est elle qui nous a mis en contact avec le premier jeune en fait qu'on a pu héberger. Et Muriel, comme fait ça depuis longtemps, peut-être tu peux en parler.
Alors on n'a plus beaucoup de temps, et avant, parce qu'il faut parler aussi de l'événement que vous allez faire. Donc Muriel parle un petit peu de l'hébergement et on termine l'événement que vous voulez faire le 2 mars.
Oui, donc rapidement sur l'hébergement. Quand ces jeunes-là sont en recours, c'est-à-dire qu'ils ont été déboutés de leur minorité, ils souhaitent faire un recours devant le juge des enfants. Ce recours est une période difficile et longue qui peut durer 3 ou 4 mois. Ça dépend des juges et des délais. Donc héberger un jeune pendant 3-4 mois, c'est long, j'en conviens, c'est pas évident pour tout le monde. Par contre, dans cette période de recours, il y a deux moments qui sont charnières. Ça va être quelques jours au début du recours, le temps qu'on monte le dossier, qu'on ait l'avocate, qu'il ait son rendez-vous avec l'avocate. Donc ça, c'est quelques jours, une semaine maximum. La deuxième date cruciale, c'est le jour où il a son audience. Donc ça peut être 2 mois, 3 mois, 4 mois après. Il faut qu'il puisse revenir sur Nîmes, au moins la veille ou l'avant-veille, pour se poser, être tranquille et serein au moment de passer devant le juge. Voilà. Donc, en fait, c'est deux petits créneaux d'une semaine et puis l'autre de 3 jours qui sont vraiment essentiels et sur lesquels des hébergeurs pourraient peut-être plus commodément accueillir des jeunes.
C'est un appel que vous lancez.
Voilà.
Alors, les modalités pratiques d'hébergement, Muriel ?
Ben, elles sont très simples. Hein. Ça peut être, si vous avez une chambre supplémentaire, la chambre supplémentaire, ça peut être le canapé, ça peut être un matelas d'appoint, ça peut être un clic-clac, ça peut être... Enfin, voilà. Les gamins me disent très souvent que ben, on est mieux là qu'à la gare, quoi. Voilà. Même si ce n'est pas une chambre individuelle. Ils ont des endroits où ils peuvent manger le midi et le soir, donc c'est pas parce qu'on héberge qu'on est obligé de cuisiner pour une personne supplémentaire. Et le fait d'être une femme seule et d'héberger ne pose aucun problème. Ça fait plus de 6 ans que j'héberge. J'ai eu 4, 5, 6 gamins à la maison. Il n'y a jamais eu le moindre problème, le moindre souci, le moindre questionnement pour qui que ce soit. Voilà.
Ben voilà. Merci de votre expérience. La manifestation, maintenant, elle aura pour but de mieux vous faire connaître. Donc, c'est samedi 2 mars, parlez-nous-en.
Voilà. Donc, samedi 2 mars, il y a une journée nationale. C'est un appel contre la loi immigration. Donc, il y a un rassemblement qui est prévu à Nîmes contre la loi immigration à 15h. Et la coordination nîmoise, c'est-à-dire la coordination nîmoise pour les jeunes exilés en danger, fait un appel à 14h. En fait, c'est dans la prolongation, voilà, l'une dans la prolongation de l'autre.
Spécifiquement à Nîmes, c'est 14h.
14h, donc devant la Maison Carrée, le 2 mars, à 14h, pour soutenir les MNA et toutes les associations qui les soutiennent. Et donc, c'est en prémisse de l'appel national pour, contre
tout
la loi d'immigration.
Voilà. Et je vous dis en plus que vous pouvez joindre ce réseau par mail pour avoir toute information, engagement ou don. À resf30gare, tout attaché, @gmail.com. Ben Muriel, Marie-Laure et Eric, merci beaucoup de nous avoir fait part de votre engagement auprès de ce réseau et bon courage parce qu'il y a du pain sur la planche. Merci à vous.
Merci.
Au revoir.
Restez avec nous sur Radio Alliance Plus.